Vous le savez, l'affaire Epstein est une onde de choc mondiale. On vous en parlait dans le journal. Cet homme d'affaires américain décédé dans sa cellule est accusé d'avoir dirigé un réseau de trafic sexuel. Donald Trump, le prince Andrew, Bill et Hillary Clinton, Jack Lang ou encore même le prince Laurent de Belgique l'ont rencontré, Jeffrey Epstein, et sont sur la liste des personnalités citées parmi les 3 millions et quelques pages de l'enquête menée par le FBI à propos de ce scandale. On en parle ce matin avec Jean-Éric Brana, il est maître de conférence à l'université Paris-Panthéon-Assas et spécialiste de la civilisation américaine et des institutions des États-Unis. Il est au micro de Jonathan Serrero. C'est un entretien, bien sûr, comme s'il s'agit de l'entretien du 18h, qui a été réalisé hier soir.
Nous allions donc aborder ce soir cette affaire Epstein qui n'en finit pas de provoquer une onde de choc au sein de certains cercles d'influence au regard des 3,5 millions de pages qui ont été révélées par le secrétariat d'État à la justice. Des noms connus ont été dévoilés à la presse. Donald Trump, le prince Andrew, Bill et Hillary Clinton ou encore Jack Lang en France ou le prince Laurent de Belgique qui indique d'ailleurs avoir rencontré Jeffrey Epstein à deux reprises. Donc la liste des personnalités publiques citées dans ce scandale ne cesse de s'allonger au fil des jours. J'ai une première question, Jean-Éric. Le nom de Donald Trump apparaît 3000 fois environ dans les derniers documents qui ont donc été révélés, mais il n'y a aujourd'hui aucune plainte encore déposée contre le président des États-Unis. Pourquoi ?
Oui, il n'y a aucune plainte contre personne d'ailleurs, hein, si vous remarquez, en réalité, beaucoup de noms qui circulent. Une situation très sulfureuse, hein, puisque c'est quelque chose qui dure maintenant depuis plusieurs années, qu'on touche sordide, puisqu'on parle de petites filles, hein, qui auraient entre 10 et 14 ans et qui auraient été utilisées pour des massages, voire même des faveurs sexuelles. Donc c'est dégoûtant, on peut pas le dire autrement, et bien sûr on pense tous à nos enfants, aux filles autour de nous dans nos familles, et on se projette assez vite. Alors ce qui est important de dire, c'est que le côté asymétrique de cette affaire qui est à la fois aux États-Unis mais dans le reste du monde, qui touche des gens dans tous les milieux, mais les milieux puissants, que ce soit les milieux du spectacle, du sport, de la finance, de la diplomatie, de la politique, c'est ça en réalité qui fait une affaire extrêmement complexe. Et comme dans tout ce qui est extrêmement complexe, eh bien on plaque vite des solutions assez simples, parce qu'on a besoin de rationaliser et de comprendre ce qui se passe, et donc le complotisme l'emporte assez rapidement sur la raison, et comme il n'y a pas eu de procès, eh bien les solutions, chacun se les fabrique, et c'est vrai que les réseaux sociaux ont fait plus rapidement encore que des procès un sort de cette affaire.
Justement, on va en parler, Jean-Éric, de ça.
Très bien, alors aujourd'hui...
De ces questions. Oui, allez-y.
Non, c'était pour terminer avec Donald Trump. Il y a effectivement son nom qui est cité très souvent, mais en réalité, c'est parce que l'affaire lui a explosé à la figure. Il faisait partie de ceux qui disaient, depuis sa campagne de 2015, avant d'être élu en 2016, qu'il fallait se battre contre les élites, étant lui-même une élite d'ailleurs. Et cette affaire qui touche quasiment exclusivement les élites, rejaillit à la tête de Donald Trump qui a voulu la passer sous le tapis rapidement, ne pas lui apporter une importance plus grande que cela, qui disait même cet été, mais arrêtez de m'embêter avec l'affaire Epstein, il n'y a rien. Et comme ça continue à souffler, c'est là où j'en arrivais au complotisme et à la rumeur qui ne cesse d'enfler, Donald Trump se trouve effectivement prisonnier de cette affaire, à tel point que beaucoup d'observateurs pensent que ça pourrait lui coûter les élections de mi-mandat, puis la fin de sa présidence, voire sa trace dans l'histoire, celle qu'il aimerait avoir très grande, parce que justement, le fait d'être si souvent cité et d'avoir pris tout cela à la légère, les deux ne vont pas ensemble.
Alors, certaines parties des documents révélés ont été noircies par le département de la justice. N'y a-t-il pas une volonté des autorités américaines de noyer le poisson, si je puis dire, et de contrôler ce qui doit être révélé ou non dans cette affaire? Peut-on parler là de nouvelles atteintes faites aux victimes de cette affaire?
C'est très compliqué ces affaires-là, parce qu'en réalité, dès qu'on touche à la justice et dès qu'on publie des documents aux États-Unis, on caviarde, comme on dit. Donc on noircit les noms des victimes, on noircit certains lieux, certaines dates, certains horaires, ou des renseignements qui permettent d'identifier les victimes et de les mettre en difficulté. Et c'est ce qui s'est passé là aussi. Alors comme certains à certains moments on a l'impression que c'est pas les victimes qui sont noircies, mais peut-être des noms de personnalités qui pourraient être impliquées. Et là encore, on va être très clair, on ne sait rien. Et comme on ne sait rien, eh bien, on invente ou on brode ou on laisse entendre que. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça la difficulté de pouvoir parler de cette affaire sans en parler, tout en parlant.
Alors, chaque jour, on apprend qu'une nouvelle personnalité ou un nouveau responsable politique est impliqué dans cette affaire. Que risquent toutes ces personnes, sachant que le principal intéressé, le principal impliqué dans cette affaire et accusé, Jeffrey Epstein, n'est aujourd'hui plus de ce monde?
Si vous permettez, Jonathan, de vous corriger, mais tout gentiment, hein, mais on apprend chaque jour qu'une personne est citée dans l'affaire. On ne sait pas si elle est impliquée dans quoi que ce soit. Encore une fois, c'est pour continuer ce qu'on disait. Hein, c'est très compliqué parce que on a vite tendance à dire des choses comme ça. Et en réalité, pour ceux qui sont cités, ça a des conséquences assez folles, non pas judiciairement ou juridiquement, parce que il n'y a aucune enquête pénale d'ouverte, donc ces personnes ne risquent rien. Mais c'est la moralité qui l'emporte, c'est l'éthique qui l'emporte, et le fait même d'être cité désormais, on voit des gens qui démissionnent. On a vu Mandelson par exemple en Angleterre, qui est le parmi ces personnalités les plus importantes. Hein, c'est lui qui a inventé le blairisme à l'époque de Tony Blair, qui a relancé ce Labour Party dans une nouvelle voie, qui se voulait plus libéral et qui rompait avec le socialisme d'antan, et il a été obligé de démissionner parce qu'il est cité tellement de fois que on s'est dit cette amitié avec Epstein, forcément elle était sulfureuse, il se passait quelque chose et il ne peut pas se défendre, il n'y arrive pas. Donc il démissionne. Donc les gens sont effectivement touchés. Vous savez, moi ça me fait penser à l'affaire MeToo. On a le même phénomène. L'affaire MeToo, c'était quoi? C'était des artistes ou des patrons plutôt d'artistes qui abusaient de jeunes femmes parce qu'elles voulaient faire une carrière et qui les amenaient dans des chambres, qui leur demandaient là aussi des faveurs et qu'elles ne pouvaient rien dire. D'ailleurs, c'était devenu un lieu commun de dire pour réussir dans le cinéma, il fallait coucher. Et c'était affreux pour celles qui ne couchaient pas justement d'être suspectées de cela et pour celles qui avaient été obligées de coucher. C'était absolument difficile à vivre par la suite. Et cette libération de MeToo, aujourd'hui, elle se transpose dans cette affaire mondiale, mais qui touche les élites. La seule difficulté qui va se poser maintenant, c'est à quel point ces élites sont capables d'aller loin pour se protéger les unes les autres. Parce que ça, même si on ne sait rien, on est obligé de se poser la question. Et c'est vrai que si les cinéastes dans MeToo ou autres grands patrons ont été jetés sous le bus, ont eu des procès, certains à tort d'ailleurs, puisqu'ils ont été blanchis à la fin de leur procès, mais leur vie a été ruinée. Et aujourd'hui, on se dit qu'il y a tellement de gens puissants dans ces dossiers Epstein qui sortent, et on n'a pas tout encore. Donc pensez quand la liste va s'allonger, qui va sortir encore de tout cela. Mais est-ce que les gens ne vont pas essayer de se protéger là aussi les uns les autres, les États les uns les autres? Il y a quand même des gens extrêmement puissants. On a cité Donald Trump, on pourrait citer Bill Clinton, le prince Andrew, enfin des gens, on n'imagine pas, mais ça vole très haut quand même. Donc tout est
possible. Elon Musk et Bill Gates aussi.
Ouais. Évidemment. Ouais. Elon Musk d'ailleurs qui se permettait de faire un tweet en disant Donald Trump est dans les fichiers Epstein alors qu'il y était lui-même.
Ouais. Est-ce qu'aux États-Unis, on fait le lien entre Jeffrey Epstein et la communauté juive? Je vous pose la question, Jean-Éric, car sur les réseaux sociaux, certains profitent des révélations quotidiennes, vous l'avez évoqué tout à l'heure, liées à l'affaire pour souffler sur les braises de l'antisémitisme, même si on le sait, ce n'est pas du tout ce qui est en jeu dans cette affaire.
Non, mais les saloperies sur les réseaux sociaux, c'est devenu un lieu commun. Et c'est vrai qu'il y a toujours des gens pour aller sur des terrains sur lesquels il faut évidemment pas aller. Non, non, aux États-Unis, on n'entend pas ça, on ne lit pas ça, et c'est pas quelque chose qui se répand. En tout cas, c'est pas ce que je lis. La question, c'est plutôt comme tout le monde est touché. Et de tous les camps et de toutes les religions et de toutes les obédiences, c'est plutôt chacun attaque son ennemi en disant c'est lui qui et moi j'y suis pour rien. Et on voit ça. Les démocrates disent que c'est les républicains que c'est les démocrates, les indépendants que c'est les deux et etc. Et c'est plutôt sur ce terrain-là parce que en réalité. C'est un marais, un sable mouvant dans lequel personne ne veut être prisonnier et chacun essaie de s'en sortir. Donc pour l'instant, c'est plutôt le sauf qui peut qui domine plutôt que je cherche un coupable. En tout cas, la judéité n'est pas mise en avant en tant que telle comme étant responsable d'eux. Écoutez, Epstein, c'était Epstein, mais c'est pas uniquement Epstein qui est concerné là. C'est tous ceux qui sont autour et il y a quand même très peu de juifs hein, parmi ceux qui sont nommés. Donc, ce serait bizarre de dire que c'est une affaire de judéité justement.
Bref, on suivra ça avec grand intérêt dans les prochains jours, les prochaines semaines. Malheureusement, Jean-Éric, juste dernière question, il n'y aura pas de fin à ce dossier très rapidement.
Non, je crois qu'effectivement, il n'y aura pas de fin parce que il faudrait que tous les documents soient découverts et qu'on puisse tout lire dedans et qu'on puisse avoir un vrai procès. Si Epstein n'était pas mort, on aurait eu ce procès. Et à ce moment-là, il aurait, lui, amené une défense, il y aurait eu des attaques frontales de la part des procureurs avec des vraies preuves. C'est un peu comme le 6 janvier qui va jamais être réglé parce qu'il n'y a pas eu de procès. C'est un peu comme ces attaques contre Trump qui ne seront jamais réglées parce qu'il n'y a pas eu de procès. En réalité, c'est la vertu du procès, hein, de pouvoir dire à la société, en toute transparence, voilà ce dont il s'agit. Alors, on attend quand même les commissions d'enquête qui, on espère, se feront en transparence. Et ça, c'est important, de façon bipartisane aussi, parce qu'il ne faut pas que ce soit un camp contre un autre. Mais même là, on n'ira pas au bout des choses. Je crois que vous avez raison de le souligner.
Jean-Éric Brana, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.